Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International. Merci d'être au rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, il y en aura deux puisque c'est une soirée Ligue des Champions. Et oui, la Ligue des Champions de retour et pour la troisième journée. Les Marseillais, pour qui déjà l'heure est grave, seule une victoire face au Sporting de Lisbonne leur permettrait de rêver de huitième de finale. Mais devant les tribunes vides, l'OM peut-il encore rêver ? Heure compliquée aussi pour l'Inter Milan, largué en championnat d'Italie, qui reçoit le Barça en tête de la Liga. Que feront les Nerazzurri sans Lukaku face au Blaugrana avec Lewandowski ? Dans ce groupe relevé, le Bayern de Sadio Mané jouera le petit poussé de cette poule, le Tchèque Viktoria Plzeň. Une affiche vintage aussi dans cette soirée, mais qui reste attrayante. Ajax, Amsterdam, Naples. Beau spectacle. En tout cas, c'est ce que promet l'affiche. Et puis la ville de Paris boycotte le Mondial au Qatar. Après de nombreuses autres communes en France, mais aussi ailleurs en Europe, la capitale et siège du PSG ne diffusera pas les matchs sur écran géant. Y a-t-il une logique ? Eh bien, nous essaierons de la trouver, n'est-ce pas Marc ? Bonjour Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va, on va essayer de trouver une solution.
Surtout au Vélodrome ce soir,
bien
n'est-ce
sûr.
Pas ?
Oui.
Bonjour Étienne Moati.
Ah, bonjour, s'il faut trouver la solution au Vélodrome, là ça va être compliqué quand même.
Ça y est, il est méchant, il est de retour, il est méchant.
La logique à Paris, c'est ça ?
Chacun fait ça. C'est plus facile, imaginez.
Bon, et pour départager tout ce petit monde, David Lortolari, bonjour David.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission aujourd'hui, Laurent Salerno est lui à la réalisation, Radio Foot, c'est parti.
Ça fait tout le tour.
Et oui, voilà. Drôle de soirée en perspective à Marseille, puisque ce sera une ambiance huis clos, la fin de la trêve internationale, le retour donc de la Ligue des Champions et cette troisième journée où l'Olympique de Marseille est en piste. Et ça sera d'ailleurs d'ici une demi-heure, chers auditeurs, puisque Marseille joue en ouverture de soirée. Les hommes d'Igor Tudor reçoivent le Sporting Lisbonne et dans ce groupe, c'est le dernier du groupe avec 0 points, qui reçoit le premier avec les 6 points de ces deux victoires. Une perspective difficile pour les Marseillais. Donc, en plus, c'est ce paramètre non négligeable du huis clos. Et l'entraîneur le regrette.
Ça ne change pas la préparation de la rencontre, son approche. C'est dommage ce qui nous arrive, mais il faut l'accepter. Nos supporters vont nous manquer. J'espère qu'on pourra au moins les rendre heureux, même si c'est derrière leur écran. Mais l'important, c'est vraiment de se concentrer sur notre performance et de faire un bon match.
Ça ne change pas la préparation, dit-il. Ça change évidemment l'ambiance. L'OM a connu de nombreux huis clos ces derniers temps, et pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de ses supporters. Marc, vous qui avez connu aussi des huis clos, quelle est l'influence finalement sur les joueurs ?
C'est difficile parce qu'il n'y a pas cette ferveur, cette envie qui peut vous pousser. Des fois, vous êtes un petit peu dans le dur et vous avez... quelque chose qui peut se passer, vous avez une foule, vous entendez des cris quand vous partez dans un drill, vous entendez une intensité qui monte au niveau des oreilles, qui peut vous aider, qui peut vous pousser. Après, ce qu'on a vécu pendant la Covid, la plupart des joueurs ont vécu une saison, presque une saison, en jouant sans public. Donc je ne vais pas dire qu'ils se sont habitués, parce que c'est toujours mieux de jouer avec du public, mais ce n'est pas la première fois. De mon époque, dans ma carrière, en 15 ans, j'ai dû en faire 3 ou 4 de huis clos. Donc c'est pas... C'était là,
mais c'est un moment que redoutent les joueurs, quand ils sont dans le vestiaire, qu'ils n'entendent rien, qu'ils s'entendent presque parler ou murmurer.
Oui, c'est pas évident. Mais ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu pendant près d'un an. Donc ils peuvent pas être surpris.
Ça a beaucoup changé à l'OM, hein, les joueurs. Je ne sais pas si tous ont vécu...
Ils l'ont vécu dans leur club respectif, d'autres endroits. Mais après...
Mais le Vélodrome, on connaît.
Mais quand on voit ce qui s'est passé, j'étais lors du match face à Francfort, c'est tout à fait logique qu'il n'y ait personne dans le stade. C'est presque logique pour moi, et heureusement, parce que c'était tellement dangereux que c'est, ben voilà, c'est la juste. Là, on nous dit oui, mais pour nos supporters, enfin, c'est quand même eux qui sont les fautifs. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut payer toutes les bêtises qu'ils sont capables de faire.
En même temps, Étienne, et c'est ça le problème sans doute, et c'est ce que soulignait votre quotidien, l'équipe aujourd'hui, c'est que il y en a quelques-uns qui ne respectent pas les consignes, et tout le monde, 62 000 personnes ou 63 000 hein, que contiennent le stade vont payer pour ça.
Oui, c'est l'éternel débat entre les sanctions individuelles et les sanctions collectives. Pour le moment, on applique beaucoup de sanctions collectives parce que finalement, ce sont les plus simples à appliquer. Parce que sinon, il faut avoir identifié tous les fauteurs de troubles, les avoir sortis du stade, avoir entamé une procédure judiciaire contre eux. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas la Ligue, c'est l'UEFA. Et Marseille était prévenu puisque c'est une révocation d'un sursis. Donc, il y avait déjà eu des incidents précédemment donc en Coupe d'Europe. Les supporters marseillais n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils le font
en
Ligue
1. C'est quoi ? C'est les fumigènes ?
C'est l'ensemble des troubles. Il y en a
oui,
eu.
Alors,
il y en a
passé des choses avec voilà, les Allemands
aussi.
Oui.
Il y en a eu de nombreux. Donc, il n'y a strictement aucune surprise, comme le disait Marc. Marseille, malheureusement, doit s'habituer à ça. Vivra encore de nouveaux huis clos en championnat parce qu'on voit que ses supporters n'apprennent jamais de leurs erreurs.
En tout cas, les statistiques disent que quand même l'OM s'en sort, même quand il joue à huis clos. Je crois que c'est 14 victoires pour 3 défaites. Donc,
si on prend la statistique en sens inverse, on peut se demander véritablement si c'est un handicap en Ligue des Champions, vu qu'ils ont perdu 16 de leurs 17 derniers matchs. Et je pense que dans beaucoup de ces matchs-là, il y avait du public et il y avait même un vélodrome qui affichait complet.
16 défaites sur 17 matchs en Ligue des Champions. On ne cesse de le souligner au sujet de l'OM.
Pas. Je sais pas.
Vous avez raison, Marc. Alors, je vais poser la question à David. Est-ce que ça pèse dans les têtes quand les joueurs, alors que ce ne sont pas les mêmes joueurs, ce n'est pas le même entraîneur, voire ce n'est pas toujours même le même directeur sportif ou président du club, et malgré tout, ce chiffre qui revient sans cesse, est-ce que ça pèse, selon vous, dans les têtes au moment de rentrer sur la pelouse, David ?
Je pourrais vous dire facilement que je n'ai pas été joueur au niveau de Marc. Néanmoins, j'ai regardé simplement avec attention le dernier match de l'OM en Coupe d'Europe.
Qu'était
compliqué contre Francfort. Plein de mauvais contrôles, plein de mauvais ballons, plein de mauvais passes, plein d'incompréhension, plein de maladresse, plein d'imperfections face au ballon, avec le ballon. Donc forcément, ça pèse parce qu'on me dit qu'en championnat, c'est pas si mal. Ils sont deuxièmes, ils ont marqué plein de points, les Marseillais. Alors comment ça se fait qu'en Coupe d'Europe contre une équipe de Francfort qui, certes, presse et difficile à manœuvrer, vous êtes nuls?
Bon, ils avaient quand même gagné la Ligue Europa, cette équipe. Donc.
Oui, non, mais c'est pas non plus... Voilà.
Oui, c'était l'autre coupe. Mais vous parlez de ce Marseille, finalement, à deux visages. Eh bien, écoutons le défenseur de cette équipe, Chancel Mbemba, dont c'est le grand retour, puisqu'il s'était pris un carton rouge dès le premier match de Ligue des Champions à Marseille. C'était à Tottenham, c'est pas drôle. En tout cas, écoutons Chancel Mbemba parler de cette équipe qui, justement, présente deux visages différents selon la compétition.
Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul. C'est l'équipe. Ça n'a pas marché des matchs. Mais on ne va pas abandonner. On a l'esprit de gagner. Dans le championnat, ça passe très bien. On a envie. Dans la Ligue des Champions, ça passe très bien comme en championnat. Mais le truc important, on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras.
Alors, Marc, quel OM risque-t-on de voir ce soir ? Quel visage ? Parce que finalement, c'est ce qu'on attend. On avait été tous à la fois séduits par ce qu'ils avaient produit à Tottenham, au moins en début de match, pendant la première mi-temps, où on se disait, tiens, il y a quelque chose. Et puis, depuis, la deuxième mi-temps, évidemment, ils avaient pris deux buts, si je ne me trompe pas,
2-0. Il prend le carton à la 46e, et c'est là que ça change un petit peu le cours du match.
Ça change tout. Et ensuite, il y a ce match, effectivement, ou ce non-match à domicile.
Face à Francfort.
Face à Francfort, où on espérait mieux. Parce que là, ils ont joué. Alors, ils ont battu, et je sais, c'est Angers au cours du week-end.
3-0,
malheureusement, c'est Angers. Quel OM on risque de voir ce soir ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à franchir ce fameux palier ?
C'est difficilement explicable. En étant sur le match de Marseille face à Francfort, tout le monde s'attendait à une équipe explosive qui allait faire comme le début de la saison, c'est-à-dire être offensive, attaquer, les agresser très haut, dans le bon sens du terme, aller sur le porteur de balle. Et on se rend compte qu'au bout de 9 minutes, que ce soit Payet ou Gerson, ils sont déjà rincés, ils ne peuvent pas jouer. Donc sur ce coup-là, autant leur coach... Je l'ai mis en avant sur certains matchs où il a apporté, sur ce coup-là, de faire tourner Guendouzi sur ce match-là et de mettre Gerson et Payet qui, au bout de 9 minutes, je l'annonce, je dis attendez, ils ont les mains sur les genoux et ils se mettent sur les côtés parce qu'ils ne veulent pas le ballon. Il y a Alexis Sanchez qui va se battre tout seul devant. Donc là, il y a un mauvais coaching. Après, pour revenir à la question que vous avez dit, je pense que dans la tête des joueurs, après 8 ou 10 matchs, on peut dire non, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on n'y pense pas. Là, ça fait 16, 17 matchs. Donc, vous faites partie de cette génération de groupes de 2021-2022 qui est encore, dans la NAS. Parce que les 2021, ils y ont été, en 2018, ils y ont été, en 2016. Donc, on peut se refaire les époques, mais eux, ils ont fait partie. Donc, à un moment donné, moi, je pensais qu'au départ, au bout de 10, 12 matchs, on n'y pense pas parce qu'on n'était pas présents. Mais là, aujourd'hui, ces gars-là, s'ils font zéro point, parce que, attention, ça, je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire.
C'est l'enclume.
Mais ils seront encore dans cette série, parce qu'on peut citer des joueurs historiques qui ont joué à Marseille depuis 10 ans et qui ont été dans cette période où ils ont fait zéro point. Et on s'en rappelle. Donc, attention dans les têtes de ne pas trop calculer. Marseille peut faire un grand match, ils sont capables de le faire. Mais l'écart abyssal entre ce qu'ils sont capables de faire en championnat, où ils sont capables de jouer très haut, et en Ligue des Champions, il ne se passe rien. Mais Francfort reste une déception énorme, parce qu'on a personne, c'est la première fois où on ne voyait pas le vrai visage d'Olympique de Marseille.
Et le problème, Étienne, c'est qu'il se retrouve face à une équipe, elle, qui a le vent en poupe, je vais dire. Alors, pas forcément en championnat, elle, c'est et le contraire. C'est le contraire de Marseille, mais en tout cas, elle a eu ses deux victoires pour ce qui est du début de la compétition. Donc, ça va être difficile, peut-être, de jouer le Sporting ce soir.
Ce qui est terrible avec Marseille, c'est que quand il y a eu le tirage au sort, ils étaient chapeau 4. Ils se retrouvent dans un groupe qui est un groupe facile de Ligue des Champions.
En tout cas, à leur portée.
Non, c'est un groupe facile de Ligue des Champions. Ils
assez avaient homogène et tout. Ouais.
Ils ont le meilleur tirage. J'étais déjà en train de parler au passé comme si Marseille n'avait plus la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, ils ont toujours la capacité, et j'irais presque jusqu'à dire, presque le devoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Quand vous voyez que Lille est passé la saison dernière à ce stade-là, vous parlez du Sporting. Le Sporting en championnat, il ne brille pas. S'ils ont des résultats sur ce groupe de Ligue des Champions, c'est peut-être que ce groupe n'est pas si fort que ça. Le match à Tottenham, le match de Marseille, qui était pas mal en effet en première mi-temps à Tottenham, a montré surtout une équipe de Tottenham qui n'est pas un foudre de guerre, en tout cas sur ce début de saison. Ce n'était pas donc, une équipe absolument pas prenable de première ligue.
Et battu au cours du week-end par Arsenal.
Francfort, même s'ils avaient gagné la Ligue Europa, franchement, ce qu'on a vu de Francfort depuis le début de la saison en Ligue des Champions, c'est quand même moyen. Hein. C'est moyen en plus, mais c'est moyen. Donc Marseille doit pouvoir se ressaisir. Il n'y a pas ce gap, il n'y a pas cet écart qu'on peut imaginer entre un club de Ligue 1 et les grandes équipes européennes sur la Ligue des Champions. Sur cette saison, ils n'auront pas d'excuses s'ils ne passent pas.
Un joueur, David Lortolari, dans cette équipe de Marseille qui est séduisant et qui, en tout cas, alors on parle souvent des mêmes, à savoir, on parlait tout à l'heure de Guendouzi, il y a Payet, il y a Sanchez, mais c'est Jonathan Clauss, qui est un joueur qui a déjà 30 ans, qui vient du RC Lens, équipe qui se comporte, elle, bien en championnat et qui avait été repérée par Marseille. Il a aussi joué en équipe de France. Il est un peu dans son rôle de piston. Est-ce que Jonathan Clauss, lui aussi, il doit être aussi brillant que face à Angers? Est-ce qu'on peut attendre ça de sa part?
Mais là, on a typiquement peut-être un exemple de joueur où je sais que ça débat régulièrement, semaine après semaine, sur quel est son niveau réel, quel est aussi son à quel niveau il peut prétendre. On a d'autres joueurs dans l'équipe, comme Amin Harit, qui peuvent être... Allez, je vais dire exceptionnel presque sur un match, c'est-à-dire passeur décisif, buteur, et puis disparaître pendant 3 mois. Donc ça fait quand même 2 catégories de joueurs avec des incertitudes. Jonathan Clauss, très bien, moi je suis. Jusqu'où peut-il monter? Peut-il se hisser à une campagne de Ligue des Champions?
On l'a vu se hisser un peu sur la scène internationale avec les Bleus, mais aussi...
Il y a plus quand même de régularité chez Jonathan Clauss que chez Amin Harit.
Ben oui, c'est ça. Pour moi, il y a ces deux catégories, mais dans les deux cas, on a quand même cette incertitude de... Peut-on passer le palier de se qualifier en Ligue des Champions pour des huitièmes de finale, ce qui prouverait quand même la valeur de l'équipe en général? Et peut-on aussi profiter de ceux qui ont des hauts et des bas et qui doivent quand même forcément à un moment sur 6 matchs de groupe, de phase de groupe, montrer quelque chose à un moment donné. Donc ça fait quand même de mon point de vue, 2 grosses incertitudes pour l'OM. Là encore, ce soir, malgré le 3-0 contre Angers, malgré la belle place en championnat, il faut encore tout prouver ce soir.
Ouais, et on est incapable d'imaginer peut-être ce qui peut se passer.
Mais aujourd'hui, c'est un petit peu, on se trompe si on doit mettre en avant Jonathan Clauss, qui est un jeune joueur au niveau de la Ligue des Champions. L'équipe de France, pareil, il a démarré son premier match au Vel. C'est avec l'équipe de France, il est en train de vivre quelque chose. Pour moi, ce n'est pas un titulaire à part entière de l'équipe de France. Au niveau de Marseille, il fait la différence. Mais on va se référer à la saison passée. Comment on peut construire? On construit dans le passé. La saison passée, quels sont les joueurs cadres? C'est Payet, c'est Gerson, et c'est Milik, Mandanda et, entre guillemets, Paolo Lopez, on va dire, et Guendouzi. Là, qui reste aujourd'hui? Vous avez Guendouzi qui se bat au milieu de terrain comme un dingue, qui des fois est un 8 et des fois est un 6. Donc, pour construire dans ce genre de choses et apporter quelque chose,
ils ont fait venir des joueurs quand même.
Très compliqué.
Tu peux essayer de t'appuyer sur Alexis Sanchez quand même. Je pense que lui, de l'expérience européenne, il en a.
Tu as raison, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a des relations à voir et des automatismes. Là, aujourd'hui, tu n'en as pas. Et sur ton match phare face à Francfort, que tu décides de mettre à ce moment-là Payet et Gerson pour les relancer, en te disant peut-être c'est le match le plus facile parce que Francfort est l'équipe la plus faible, bah, tu t'es fait bouger simplement par une équipe de Francfort qui n'a pas été fantastique. Ils ont été juste bien en place. Et un joueur devant international français qui a fait la différence à lui tout seul et qui a perturbé Marseille. Donc, malheureusement, aujourd'hui, de dire Marseille doit construire quelque chose, il faut... On voyait Rongier, on ne voit plus Rongier. C'est bizarre. En fait, il y a des choses qui sont quand même très, très étranges.
Igor Tudor, on a peut-être un peu de mal à le suivre parfois, Étienne Moati.
On avait beaucoup de mal en début de saison. On avait presque l'impression qu'il allait repartir aussi vite qu'il était arrivé. Finalement, la place en championnat, le parcours en championnat qui est quand même...
Ils sont invaincus encore en Ligue 1.
En nombre de points, toujours à 2 points de ce Paris Saint-Germain-là. Quand même, c'est une performance, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais quand même assez remarquable pour ce début de saison. Et il y a la faillite en Ligue des Champions. Enfin, par rapport à ce à quoi on s'attendait, on est quand même agréablement surpris d'Igor Tudor. Il a quand même mis une équipe en place assez vite.
Mais a-t-il le niveau Ligue des Champions, lui ?
Je pense que c'est d'abord l'effectif. Il a montré qu'il avait une équipe qui était une équipe qui était relativement bien en place depuis le début de la saison. Donc, c'est plus dans les têtes que ça s'est passé. Là, et peut-être sur les quelques faillites individuelles qu'a relevé Marc sur Gerson, Payet, sur le dernier match. En effet, ils n'étaient pas du tout en état physique quasiment de jouer cette partie. Moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière sur Tudor. Je trouve que finalement... Il est plus calme qu'on l'imaginait. On nous parlait d'un adjudant et qui avait mis le feu à Marseille en espèce d'une semaine après être arrivé. Finalement, il a l'air de tenir son groupe. Il a des résultats et maintenant, il reste à gagner ce soir.
Mmh. Alors, reste à gagner ce soir, Marc. Oui. Qu'est-ce que vous imaginez, vous ? Un petit 1-0 ou quelque chose de quand même plus construit ?
4-0 pour Marseille.
Alors, Marc, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui. Est-ce que c'est un signe, la Youth League ? La Ligue des moins de 19 ans.
Ah, comment ils en ont pris, les jeunes du centre ? Allez-y, dites-moi tout.
6-0.
Bah, c'est
De la part du Sporting, hein, je le dis pour nos auditeurs, parce que les jeunes.
Puis le match précédent face à Francfort, je crois que c'est le gardien de but qui marque dans les arrêts de jeu à la 96e. Ils font un partout, un coup de tête. Donc,
Marseille n'est pas le club qui sort le plus de joueurs.
Hein, on en a sorti pendant une époque et depuis quelques temps, on a un petit peu délaissé la formation au détriment du. Je crois que Camara restera un des derniers gamins avec Lopez que le club est sorti. Et ça fait quand même déjà un moment. Mm-hmm. Donc, en espérant qu'il y ait un autre gamin qui arrive, je ne sais pas quand.
Donc, il ne faut pas tenir compte de ce thermomètre-là.
Ah, mais de toute façon, le thermomètre aujourd'hui, c'est que Marseille est capable de sortir un match exceptionnel ce soir et de faire la différence. Si, ils vont faire la 10e journée, là. C'est la CA, c'est ça ? S'ils reçoivent la CA, si mes souvenirs sont bons, après 10 journées, ils sont à 2 points du PSG, je vous aurais dit, mais Annie, ça va pas, il y a un problème. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Ben, aujourd'hui, non, mais tout le monde est surpris.
On voit le début de saison. Annie, même pour plaisanter, je crois, moi.
Oui, mais on est très intime, c'est pour ça. On peut se permettre. Non, parce que j'arrive une heure avant. On prend le café, on discute, on refait le monde. Ouais, c'est pour ça.
D'autres arrivent juste à l'heure.
Ah, mais à l'heure quand même. Tant que vous êtes à l'heure, c'est l'essentiel. Moi, j'ai rien à dire, moi.
On en parlera donc tout à l'heure dans la deuxième édition de Radio Foot International. Coup d'envoi dans un quart d'heure. En attendant, nous, on va s'intéresser à d'autres affiches. Le groupe C. Alors, tout à l'heure, on parlait de groupes équilibrés ou de groupes qui paraissent homogènes. Là, c'est pas forcément le mieux. On aime bien trouver des groupes de la mort et c'était peut-être celui-là au moment du tirage au sort où on se retrouve dans ce groupe C avec le Bayern de Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Ce soir, ce sont les Nerazzurri qui reçoivent les Blaugrana. Une heure compliquée pour l'équipe milanaise qui va bien mal en championnat, seulement 9e. C'est champion 2021 d'Italie et vice-champion la saison dernière, juste derrière le Milan AC. Ils sont en tout cas 3e pour ce qui est de ce groupe C, avec autant de point que le Barça, ils ont chacun une victoire, une défaite. Écoutons l'entraîneur Simone Inzaghi, un peu chahuté en ce moment en Italie. Il sait parfaitement à qui il aura affaire ce soir face à lui.
È una squadra completa, forte, C'est une grande équipe, une équipe complète qui a beaucoup de qualités. En fait, elle n'a pas beaucoup de failles. Je pense que c'est une des trois équipes qui offre le meilleur football en Europe en ce moment. Il faudra essayer de limiter leur influence, leur capacité à récupérer le ballon facilement. Ils savent tout faire en phase de possession, mais aussi quand ils en sont dépossédés. Et depuis cet été, ils ont Robert Lewandowski, qui est un joueur immense.
Alors rappelons que le Barça, miraculé du mercato avec des recrutements assez impressionnants par rapport à ses finances, il est passé premier de la Liga au cours du week-end. Il est à un point devant le Real Madrid. Ce Barça, qui semble si fort, avait cependant été battu par le Bayern Munich. À quoi doit-on s'attendre ce soir, Étienne Moati, à vous la balle.
Je serais assez comme l'entraîneur de l'Inter, à penser qu'il rencontre quand même une équipe avec un fond de jeu assez spectaculaire. J'ai vu que certains au plateau qui levaient les yeux au ciel quand on parlait de la troisième peut-être équipe la plus belle à voir jouer en Europe en ce moment. Sur ce début de saison, peut-être un peu quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recrutements et on a trouvé de l'argent à Barcelone. Il en manquait beaucoup, mais on en a trouvé. Ils ont vendu un petit peu tous les joyaux de famille.
Beaucoup d'artifices.
Voilà, ils ont beaucoup d'artifices. Mais en tout cas, sur l'effectif de cette saison, ça fait vraiment la différence. Et des joueurs qui vont au Barça et un Robert Lewandowski, la capacité d'adaptation absolument fulgurante, donc il est déjà exceptionnel, et surtout un entraîneur qui est un vrai joueur du club, qui transmet l'esprit du Barça donc à cette équipe-là. Mais c'est un match très important ce soir, parce que les deux équipes, donc ça peut faire la bascule un petit peu dans le groupe, les deux équipes ont le même nombre de points, je crois, si je ne me suis pas
trompé. Trois chacun,
c'est ça.
Voilà, donc je m'attends à un match avec une victoire du Barça et pas mal de buts.
C'est Robert Lewandowski qui, une fois encore, risque de faire la différence, David Ortolari, d'autant que, précisons-le, du côté de l'Inter, et on y viendra après, c'est peut-être aussi un des problèmes de l'équipe cette année, Lukaku est sur le flanc et il est forfait pour le match.
Oui, alors il y a quelques joueurs de qualité, voire de grande qualité dans la défense de l'Inter quand même, qui peuvent peut-être... sinon muselé, du moins contrôler un petit peu Lewandowski. Il n'a pas forcément toujours été brillantissime contre des défenses fortes. Donc ça reste à prouver peut-être ce soir.
Ah bon, là on parle. Alors là,
dans les très grands matchs, Étienne, Lewandowski, il lui est arrivé régulièrement d'être muselé.
Mais vu ses statistiques, ça a dû lui arriver quand même un peu plus souvent de marquer même contre des équipes fortes.
Non, je suis d'accord que c'est l'un des principaux arguments du Barça. Et en ayant vu les occasions énormes, 3, 4, 5, peut-être 6 que le Barça avait eu contre le Bayern sans les convertir, oui, ils peuvent faire du mal à beaucoup de monde, ces Barcelonais. Ça, c'est sûr. Après, ils sont en phase de rebond. Il faut voir maintenant ce que ça peut donner au moment où ça compte. J'ai envie de vous dire, pour l'Inter, dans un groupe à 3 pour 2 places, si on imagine que le Bayern, qui a un peu d'avance, devait rester devant, que le Barça soit peut-être son dauphin dans un groupe comme ça, l'Inter, quelque part, n'a rien à perdre contre le Barça. C'est-à-dire que s'il y a des fêtes, ça serait presque normal par rapport au niveau des deux équipes du moment. Moi, je commente l'Inter régulièrement sur la Serie A, ils ne sont pas exceptionnels non plus. Pour moi, ils sont en dessous du Barça. Donc, on a aussi cette attitude possible de se dire, bon, Barcelone, c'est fort, on va jouer un bon match et voir ce qu'il advienne. Donc, voilà.
Marc, l'Inter déjà était sorti l'année dernière assez précocement de la Ligue des Champions. Quels sont les arguments selon vous ce soir face au Barça ?
Les arguments aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un résultat. En ayant 3 points chacun, ça peut basculer. Ouais. Mais je suis assez d'accord quand on voit Inzaghi qui nous explique qu'en face, ils sont super, ils sont ceci, ils sont cela. C'est une posture de dire on désamorce parce qu'on risque peut-être de se faire... on risque de subir quelque chose de très difficile, c'est-à-dire même de perdre, mais il est peut-être pas serein, parce que là, c'est vrai que j'ai écouté un petit peu sa conf, c'est assez surprenant. Il dit non, mais ils sont très forts, ils sont ceci, ils sont cela. L'Inter, il y a quand même 2 ans, ils sont champions d'Italie avec une équipe fantastique. Alors certes, des joueurs sont plus là, ils sont partis, mais c'est vrai que c'est... je ne sais pas dans quelle posture il est capable de se placer, parce qu'au niveau du Scudetto, ça se passe mal pour eux, et on va lui taper dedans plus que dans la Ligue des Champions.
Beaucoup là, plus que dans la Ligue. Ils ont été sévèrement battus par la Roma.
Voilà, et non, mais surtout qu'on va... nous, on va dire la Ligue des Champions, c'est ce qu'il y a de plus important. En Angleterre, on sait que le championnat est plus important. En Italie, au niveau de la Serie A, si ça se passe mal, on va plus lui taper dedans que de dire bon, mais il va perdre contre Barça. Ouais, c'est presque normal. Et puis, de toute façon, il y a Lewandowski. Lewandowski va tout faire. Mais c'est vrai. Il est capable de tout faire. Donc cet Inter-là est assez surprenant.
Oui, surprenant. Et puis, c'est vrai que pour eux, par contre, la scène européenne, c'est important parce qu'ils en avaient été absents très longtemps. Mmh. Et donc là, l'année dernière, le retour était un peu raté. Et là, ils doivent se poser des questions, Étienne.
Oui, comme beaucoup d'équipes de Serie A qui ont quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui donc à passer le cap au niveau européen, en Ligue des Champions. Mmh. Il y a un peu une fracture qui s'est faite quand même pour beaucoup de clubs italiens où finalement, il y a une espèce de plafond de verre. Qui aurait dit ça il y a quelques années encore.
Même la Juve.
Mais c'est le cas aujourd'hui. Mais rencontre une équipe qui, pour moi, le Barça, cette saison, est très, très fort. David l'a dit, le match à Munich, Barcelone doit gagner 10 fois. Ils ont raté un nombre d'occasions invraisemblables. Aujourd'hui, ils sont leaders du championnat. Moi, je vois les matchs. Franchement, c'est un très, très bon Barça aujourd'hui.
Parlons justement de ce Bayern, puisque bon, il y aura donc cette rencontre et parallèlement le Bayern qui reçoit alors le petit poussé, celui contre lequel peut-être on fait des points, hein, c'est le Victoria Plzeň.
Il vaut mieux faire des points contre cette équipe.
l'équipe de Tchèque, voilà. Le Bayern qui a renoué avec la victoire au cours du week-end face au Bayer Leverkusen.
Oui, qui va mal. Alors, il ne faut pas considérer que
le Bayern Leverkusen.
Oui, qui va mal cette saison, dont l'entraîneur est très fragilisé désormais, qui n'arrive pas à gagner des matchs, qui n'arrive pas à prendre des points. Donc, ça sera une référence relative, Annie, sur le rebond du Bayern. Lewandowski est parti. Étienne a insisté sur l'importance de ce joueur-là. Évidemment que contre une équipe plus faible, les responsabilités diluées, ça peut très bien marcher. Si ce n'est pas Sané, ça sera Gnabry. Si ce n'est pas Gnabry, ça sera Sadio Mané. Si ce n'est pas Sadio Mané, ça sera Moussiala. Et on peut étendre la liste. Donc, il y aura des solutions contre des équipes plus faibles. Mais contre des ténors ou des équipes plus fortes, la question, elle est toujours en suspens. Est-ce que le Bayern peut retrouver sa carburation d'avec Lewandowski? On ne sait pas aujourd'hui. En tout cas, des solutions offensives, il y en a. Mm-hmm.
Le Bayern sans Lewandowski, Marc, ils sont en tête de leur groupe, là, oui. Évidemment. Hein, l'Europe, c'est toujours quelque chose d'important pour eux qui alignent les titres en championnat. Ils ne sont pas premiers en ce moment, mais souvent, ils y arrivent. Comment voyez-vous ce Bayern, vous?
Sur l'ensemble de la saison ou sur le match de ce soir?
Sur ce début de saison et ce soir.
On peut pas, du jour au lendemain, on ne peut pas se passer d'un tel joueur qui vous a marqué 30 buts minimum par saison.
8 saisons, oui.
Pendant 8 saisons. C'est comme si aujourd'hui, vous dites, j'ai Haaland dans mon équipe, qu'est-ce que je suis content. Lewandowski rentre sur le terrain, vous savez que vous avez peur. Vous êtes défenseur, vous êtes le meilleur défenseur du monde. Vous allez craindre automatiquement de le croiser, mais automatiquement. Donc du coup, il est passé de l'autre côté. Le Bayern, je pense, a des armes pour faire la différence, mais autant que Lewandowski... Cette race de buteurs, il y en a très très peu. Dans le monde, il y en a très très peu aujourd'hui. Hein. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui existent, qui sont capables. Il y a 3 ballons, eux, ils peuvent mettre 4 buts. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent mettre 4. Donc à un moment donné, ils vont devoir compenser. Il faut trouver, tu as cité des joueurs et des exemples, mais ces joueurs-là aujourd'hui ne le compensera jamais. Müller aussi a un certain âge aujourd'hui, même s'il est toujours présent. Il faut trouver ce fameux buteur.
C'est peut-être la solution, c'est peut-être le tacticien, le fameux Julian Nagelsmann, Étienne.
Oui, je pense que sur les gros matchs et sur la Ligue des Champions, d'abord il ne joue pas, mais surtout il faut qu'il se méfie un petit peu de lui-même quand même parfois, parce qu'il a des tentations un peu de vouloir parfois réinventer le football à lui tout seul. On peut apprécier parce qu'il y a un nombre de joueurs offensifs parfois, donc sur la pelouse.
La fougue de la jeunesse.
Absolument invraisemblable, mais c'est une équipe qui a parfois beaucoup de déséquilibre. C'était déjà son petit travers de temps en temps, donc à d'autres époques, mais là, ça l'est réellement. Et puis, je trouve qu'ils ont recruté Sadio Mané, qui est un super joueur, mais ils n'ont pas véritablement d'avant-centre. Le buteur, celui qui est dans la surface et qui la met au fond. Donc, j'attends de voir quand même la suite de la saison du Bayern.
La suite de la saison du Bayern, selon Nagelsmann, c'est comment pour les Allemands et la presse allemande, David ? Il n'y a pas de certitude au vu de la saison dernière ?
Je vais m'échapper avec facilité. C'est-à-dire que là, ils ont réussi. Le premier obstacle qui se présentait, c'était Leverkusen. Il ne fallait pas perdre, sinon c'était un embrouille à mini pas possible. Il y a Dortmund samedi qui vient.
Les deux équipes se suivent, effectivement, mais ne sont pas
points,
en tête
donc ça va être un examen. Ça va être un examen qui va être surveillé de très près. Sur les 75 derniers points possibles pris à domicile par le Bayern en Ligue des Champions, ils en ont pris 73 sur 75.
Voilà, ça donc, calme.
À domicile, ça calme. Contre Pilsen, ça devrait normalement. Alors, par contre, s'il y a match nul ce soir, réinvitez-moi demain, Ali, et on parle de toute cette tambouille parce que ça sera l'enfer au Bayern.
Oui, ça, si d'ailleurs, à domicile.
Si Marseille gagne, vous m'invitez, je viens aussi demain, mais gratuitement, je viens faire plaisir.
Bah, vous êtes invité aussi.
Je ne sais pas dit que je vienne, mais bon, on verra, j'espère, on va prier.
Cette belle affiche qui peut-être vous inspire, messieurs, qui prendrait la parole sur ces de grands noms que sont Ajax Amsterdam et Naples. C'est pas une musique hollandaise ou néerlandaise, mais pourtant, non. On la joue beaucoup là-bas dans ce stade qui connut l'une des idoles, bien sûr, du football, c'est Johan Cruyff, et à Naples, il y avait un certain Diego Maradona. C'est un côté vintage qui rend l'affiche attrayante, Étienne Moati.
Bah, je vous dirais non, c'est plutôt le niveau actuel de ces équipes-là. Naples, c'est une équipe évidemment qui a une histoire. On lui ramène toujours Maradona parce que c'est vrai que ça c'est pour la vie.
Parce qu'ils n'ont pas été champions depuis.
Et quand on se balade à Naples, on voit encore donc partout des images de Maradona. Mais l'équipe actuelle de Naples est pourtant.
Le stade s'appelle Maradona en plus.
Même si elle a perdu des joueurs, donc ils réussissent très très bien en Serie A. C'est une très belle équipe. Et puis l'Ajax, évidemment, elle a aussi son histoire, mais elle a toujours son présent. Elle sait se renouveler, elle sait sortir des joueurs, contrairement à l'Olympique de Marseille. Et il y en a qui arrivent en permanence. Donc, c'est un vrai match de 2022, intéressant à regarder, simplement même avec des yeux de 2022, sans penser au passé.
Marc ?
Oui.
Sans penser au passé, quand même, c'est vrai que l'Ajax notamment nous a enchantés ces derniers temps en Ligue des Champions, l'année où ils sont éliminés en demi-finale. On aurait tous voulu pour eux qu'ils aillent au moins jusqu'en finale.
Alors, cette génération-là, elle est éparpillée un petit peu partout en Europe. La plupart des joueurs jouent de partout aujourd'hui. Oui, oui. Ils nous avaient enthousiasmés. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une époque révolue pour moi, parce que le football a changé. Je pense que
c'était il y a deux ou trois ans. Hein,
non, mais je parle. Non, mais quand on peut remonter les Maradona, moi je suis devant ma télé. Enfin voilà, c'est encore une autre époque. Donc de comparer ça, oui, ça peut être possible. Mais aujourd'hui, je pense que Naples a le potentiel pour battre cette équipe parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Je crois que sur la série actuellement, ouais. ils sont très très bien. Spalletti est en train de mettre quelque chose en place depuis 2-3 ans. Il n'est pas très loin de faire ce qu'il faut pour gagner ce fameux Scudetto. Donc peut-être que c'est leur saison. On va voir un petit peu parce qu'on sait qu'on a vécu en Italie avec la Juve pendant de nombreuses années. Les deux Milan sont de retour. Et Naples, l'Atalanta, rappelez-vous, sont pas très loin. Et c'est peut-être. Alors, on se fait des soucis parce qu'ils ont perdu leur défenseur qui est parti à Chelsea. Défenseur central
Koulibaly.
Qui est parti à Koulibaly.
Mm-hmm. Qui joue pas beaucoup d'ailleurs. Pas tout le temps.
Ben ouais, et voilà. Et du coup.
Un peu comme Casemiro. Hein.
Du coup, ça c'est encore autre chose. Il est malheureux. Et du coup, je pense que cette équipe de Naples peut faire quelque chose cette année. Après, on verra si je me trompe ou pas.
David Lortolari, dans cette équipe de Naples, il y a deux joueurs africains notables, notamment. Hein. C'est Osimhen qui avait remporté le prix Marc-Vivien Foé du temps où il jouait à Lille. Et puis, il y a le Camerounais, Zambo Anguissa, qui lui aussi se distingue dans cette équipe napolitaine.
Et qu'on n'imaginait pas arriver à ce niveau-là, qui est aujourd'hui un niveau
ancien
exceptionnel.
Ancien Marseillais.
Oui,
je ne me trompe pas, Marc.
Osimhen est blessé d'ailleurs, il ne pourra pas jouer ce soir.
C'est intéressant, Annie, parce qu'il y a effectivement quelques joueurs pris individuellement qu'on a envie de voir. Moi, j'aime beaucoup Tadic, le capitaine de l'Ajax, le Blindt en défense aussi.
Qui était déjà là en demi-finale, la fameuse fois.
Marc parlait de l'époque Maradona, Blindt en défense, on pense à l'autre Blindt aussi d'avant, même si c'est un tout petit peu moins vieux. Mais donc ça, individuellement intéressant, mais ce sont surtout deux collectifs qui vont jouer un peu aux échecs. Ça, c'est sympathique. Et puisque vous évoquez cette affiche, il y en a une autre aussi qui est amusante sur le plan de l'histoire du football européen, c'est Glasgow Rangers-Liverpool aussi au même moment. Là aussi, c'est intéressant de voir cette espèce d'entrechoc des époques et ce que ça peut donner aujourd'hui.
Oui, alors des époques avec un certain déséquilibre quand même, les Glasgow Rangers.
C'est... Sur ce match-là, oui.
Voilà. Les Reds...
Quoique le Liverpool de cette saison, peut-être que aussi... même les Glasgow Rangers peuvent les prendre. Non, je plaisante.
Mais en Ligue des Champions, ils sont là quand même. Et on peut se dire que c'est au moins la scène sur laquelle ils peuvent un peu se rattraper. Et même peut-être ce soir, malheureusement, au détriment des Écossais, enfin du club écossais, Étienne.
Oui, pour ce soir, évidemment, je plaisantais. Je pense qu'il y a plusieurs classes d'écart entre les Rangers et Liverpool aujourd'hui, même si ce Liverpool paraît un peu, je dirais, comme essoufflé peut-être par plusieurs saisons vraiment est énormément sollicité avec un groupe de joueurs qui n'a pas beaucoup bougé, avec évidemment le même coach, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça manque un peu de souffle à Liverpool. Mais peut-être qu'en effet, ça peut devenir une équipe qui mise un peu tout sur la Ligue des Champions, qui assure, on va dire, une des quatre premières places en Première Ligue, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, cette saison avec City renforcée par Erling Haaland, ça va être compliqué peut-être d'aller chercher le titre. Mais ça peut devenir une équipe, on va dire, de match de groupe au départ et élimination directe en Ligue des Champions pour essayer d'aller au bout.
Marc,
on s'est peut-être pas rendu compte de l'importance de Sadio Mané sur le front de l'attaque, ce qu'il était capable de faire à un moment donné.
On s'en rendait un peu compte quand même.
Non, mais je parle, c'est que Salah, tu sais, il y a des petits soucis avec Salah qui revendiquait des choses. Aujourd'hui, Salah, il est dans le dur. Firmino, qui lui ne devait plus jouer, finalement rejoue.
C'est lui, parfois le sauveur. C'est incroyable.
C'est le sauveur actuellement. Il est capable de te faire un doublé ce week-end pour te remettre dans le sens de la marche. Et il y avait un collectif qui était mis en place par rapport à un jeu. Et on se rend compte qu'ils sont un petit peu dans le dur à cause de ça. Même s'ils ont recruté de très bons joueurs qui ne jouent pas forcément tous, ils se retrouvent sur le banc. Je crois qu'aujourd'hui, ce Liverpool-là peut commencer à s'essouffler parce que la méthode Jürgen Klopp, qui tourne très très peu, vous prend quand même pas mal d'énergie. Et il faut arriver à remettre les choses en place et c'est pas forcément évident. Et quand on perd un joueur aussi important, parce que qu'on le veuille ou non, Mané, c'est... Voilà, si on l'a plus, il faut trouver la solution. La solution, on ne la trouve pas comme ça du jour au lendemain.
Bon, en tout cas, ce soir, eh bien, cette équipe de Liverpool aura au moins l'occasion de se remettre un peu à l'endroit sur la scène européenne. Rendez-vous donc dans Radio Foot, ce sera à partir de 21h10 en temps universel, 23h10 heure de Paris pour le débrief de tous ces matchs. Et on évoquera aussi l'affiche de demain, le Paris Saint-Germain qui se trouve à Lisbonne. C'est assez amusant entre le Sporting Lisbonne qui joue contre Marseille et le Benfica Lisbonne qui joue contre le Paris.
Amusant et très important pour le football français parce que pour assurer la cinquième place à l'indice UEFA, c'est contre les Portugais que ça se passe. Et donc forcément, ces matchs-là, il faut les gagner.
Oui, et bien voilà, à bon entendeur, n'est-ce pas? Et on verra ça dans la deuxième partie de Radio Foot International. Pour l'instant, on change de sujet. Le mondial au Qatar, pomme de discorde internationale ou de discussion en tout cas, mais aussi une pomme de discorde parisienne. Alors après de nombreuses villes européennes, comme en Belgique, lorsque nous y étions pour faire l'émission, on se souvient que la ville natale des frères Hazard avait décidé qu'elle ne retransmettrait pas les matchs de la compétition mondiale. Après Barcelone en Espagne, en France, il y a eu une cascade d'annonces, Lille, Marseille ou encore Bordeaux, Strasbourg et hier Paris. Paris où il n'y aura donc pas non plus d'écran géant pour retransmettre la Coupe du Monde visée. Le Qatar, mais surtout la compétition qui mobilise les critiques sociales et écologiques. Alors, ce qui est important de signaler quand même, c'est que nous sommes dans l'hémisphère nord européen et que c'est une compétition placée en hiver. On imagine mal, David Lortolari, des écrans géants quand il fait, en novembre ou décembre en Europe, il peut faire 5 degrés, il peut neiger. Suivre les matchs en plein air, c'est quand même pas la même ambiance. C'est peut-être une solution de facilité. Il y aurait peut-être eu peu de monde.
J'ai observé, Annie, comme vous, effectivement, les diverses moqueries sur ce sujet les derniers jours, mais je suis pas, vu d'Allemagne, je suis pas d'accord avec ça, puisque les meilleures ambiances, c'est au mois de décembre, avec une petite tasse de vin chaud avec bien habillé, bien équipé, on peut regarder un match. Alors on va avoir froid, c'est sûr, mais ça peut être tout aussi sympathique qu'en plein été. Donc je dis ça sans aucune mauvaise foi. Je pense que cet argumentaire il est un peu
non mais c'est pas ce qui est avancé.
Il fera pas forcément moins 10 en plus, par ailleurs.
Non pas forcément. On peut avoir une espèce de d'été indien, on va dire. En tout cas, la décision qui fait parler, c'est celle de la mairie de Paris, car la ville lumière, tout le monde le sait, abrite le Paris Saint-Germain ou le Qatar Saint-Germain, comme certains s'amusent à le surnommer. Alors écoutons l'adjoint à la mairie de Paris, David Bayard.
Qu'est-ce qu'on boycotte aujourd'hui ? On boycotte pas le PSG, on boycotte un événement. L'événement, c'est, en tout cas, et on le boycotte, qu'est-ce que ça veut dire le boycott ? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas installer, on ne va pas faire la promotion dans l'espace public parisien, comme par exemple à Strasbourg, à Bordeaux ou à Lille, par exemple. Eh bien, on ne va pas faire la promotion de ce type de cet événement pendant qu'il va advenir. Voilà, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas que, et c'est la position de Paris, on ne dit pas ben, on est contre le Qatar, on est contre le type d'événement dans ces conditions-là. Voilà, c'est ça en fait qui est dit.
Ce qui est dit, c'est cela.
Vous avez compris quelque chose à ce qu'il a dit ? Parce que moi, pas du tout. Hein.
Oh, il a dit on n'est pas méchant. Contre le Qatar. Il a dit.
Non, non, mais justement, c'est un espèce de numéro d'équilibriste, donc d'homme politique, qui essaie de justifier, je ne vais pas dire l'injusticiable, parce que finalement, pourquoi pas, ne pas accueillir donc, ces fan zones, ne pas mettre d'écran géant. Mais quand vous êtes le responsable d'une mairie, d'une ville qui a fait le lit du Qatar pour venir investir et en faire le club le plus riche du monde, sans jamais aucun commentaire sur savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au Qatar, la condition des femmes, la condition des travailleurs immigrés. Donc franchement, cette mauvaise foi est absolument détestable.
Justement, on a ce qu'il faut pour aller dans votre sens, Étienne Moati. C'est la maire Anne Hidalgo qui va très souvent au stade. On la voit en tribune.
En fait, c'est ma mère, je vis à Paris, c'est
ma
mère.
Moi aussi, c'est ma mère. Ouais. Et en 2015, sur RTL, avec notre confrère Jean-Michel Apathy, elle parlait ainsi des propriétaires du Paris Saint-Germain.
Ce que je peux dire sur Paris et sur la relation que l'on a avec le PSG, avec le patron du PSG, eh bien, c'est une relation extrêmement, d'abord positive, très, très forte. Moi, je les remercie d'avoir mis le club de Paris au niveau auquel il est. Et puis, dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Donc, écoutez, voilà, je suis heureuse de cette collaboration. Avec eux.
Voilà, on entendait Jean-Michel Apathy, donc elle ne dit pas le mot Qatar, on l'a tous noté. Étienne, est-ce que c'est un paradoxe de la part de Paris, particulièrement ? Parce qu'on a parlé, les autres villes, bon, on dit Barcelone, alors que le Barça est lui aussi beaucoup financé par la publicité du Qatar. Enfin, on a beaucoup de clubs, à l'heure actuelle, liés à cet Émirat.
Enfin, plus que la mairie de Paris, il n'y en a pas beaucoup quand même, avec l'investissement qui a été fait par QSI, le fonds d'investissement.
Je crois que c'est plus d'un milliard actuellement.
Dans le Paris Saint-Germain, mais en effet, de toute façon, d'autres villes françaises et l'économie française en général donc, bénéficient donc, de fonds qatariens. Il y en a énormément et dans les plus grandes entreprises françaises du CAC 40.
Dans l'immobilier.
Le football sert, mais on est un peu habitué à ça, donc à se donner bonne conscience et à faire des luttes donc, en faveur des droits de l'homme, finalement, à peu de frais. C'est ce qu'on fait à peu près tous les politiques depuis quelques semaines. Et puis surtout, se réveillant à deux mois du démarrage de la Coupe du Monde, quand l'attribution a eu lieu...
En décembre 2010.
Exactement. Donc, on avait envie d'entendre tous ces gens-là à ce moment-là. Et donc, refuser cette attribution, demander à l'État français de se prononcer. Non, voilà. On peut être d'accord, d'ailleurs, avec le discours de ces villes-là. Mais on peut aussi considérer que c'est quand même un peu tard et un peu facile aujourd'hui.
Marc ?
Le discours me dérange parce que j'aurais aimé un petit peu de franchise de nos politiques français. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est encore une enfumade, quoi, comme on dit à Marseille. Parce que quand on nous raconte ce genre de choses, j'aurais préféré qu'on nous dise aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de gérer une fan zone. On est incapable. La plupart des villes françaises ne peuvent plus gérer une fan zone. De 5-10 000 personnes, ils ne sont pas capables. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des importances où les gens n'arrivent plus à manger. On va nous expliquer qu'il y a bientôt plus de chauffage et qu'on va devoir couper. Certaines communes, je fréquente des maires, qui nous disent aujourd'hui, on ne sait même pas si on va allumer le chauffage pour des écoles, pour des enfants. Donc là, quand on me dise, voilà, vous comprenez, on ne peut pas gérer. On a des priorités, le chauffage, certains bailleurs sociaux, ça va être difficile de... Qu'on nous raconte ça, mais qu'on m'explique pas. Ah non, mais vous comprenez, je veux pas.
Oui, parce que c'est une aberration. À la sobriété demandée cette année, effectivement, brancher les écrans géants et mobiliser.
Non, mais c'est surtout que certaines communes vont payer 3, 4 ou 5 fois plus cher leur consommation par rapport à ce qu'ils payaient avant en électricité pour une ville. Donc,
justement, ça devient ingérable. Justement, ça peut rentrer aussi dans le raisonnement.
Que l'on me dise ça, je peux comprendre, mais pas cette genre de bêtises.
David Lortolari, il y a aussi une chose. Alors, les élus n'insistent pas beaucoup là-dessus, pourtant, à Paris, mais il y a une réalité. en tout cas nos confrères soulignaient que le PSG sous pavillon qatarien, c'est 182 millions d'euros en impact économique pour ce qui est de la région Île-de-France, et ce sont à peu près un peu plus de 2000 emplois indirects qui sont générés aussi dans la région. Donc tout cela, on disait bienvenue aussi aux capitaux qatariens.
Ah mais c'est sûr. Après, les deux camarades l'ont très bien dit, les initiatives collectives qui consisteront, mais on peut le dire franchement, comme le réclame Marc, les initiatives collectives qui consisteront à réduire de la consommation, à avoir un comportement responsable et raisonnable, très bien, d'autant plus qu'on a souvent tendance à aller chercher les individus pour faire des efforts et peut-être moins les collectivités. Donc là-dessus, très bien. Y a une autre chose sur laquelle il faut qu'on se méfie, qu'il n'y ait pas aussi ce même genre de surf. Ce sont les Jeux d'Asie, d'hiver, qui ont été attribués aujourd'hui ou hier, en 2029, à l'Arabie Saoudite. Pareil, là, on va pouvoir aussi, sans avoir ce caillou dans la chaussure du Qatar qui investit à Paris Saint-Germain, pouvoir peut-être se plaindre, pouvoir peut-être, à défaut de se plaindre, faire une campagne en disant c'est peut-être un peu ridicule. Mais évidemment, Annick, les investissements sont massifs partout, dans toutes les rues de Paris.
Étienne Moitié, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière, finalement, une certaine critique à ce que devient, finalement, le football, et notamment ce football business qu'on entend quand même beaucoup dénoncer, et même si on continue à le suivre et à en parler, mais un peu ce rejet, finalement, et on se dit, là, ça va très loin, et notamment avec ce championnat. C'est vrai que tout le monde se dit, ah bon, il y a une Coupe du Monde, mais c'est en plein mois de novembre, d'habitude, effectivement, le côté mois de juillet, les vacances, on a un peu le temps.
Oui, c'est vrai que le football business n'a pas attendu l'arrivée du Qatar en 2011 au Paris Saint-Germain pour exister. Et de l'argent,
mais ça
de l'argent sale dans le
même
foot, et il y en avait bien avant
bien
eux.
Sûr.
Et c'est vrai que cette attribution de Coupe du Monde au Qatar, qui est un pays où il n'y avait aucune identité de football, où il n'y avait pas de stade, où il n'y avait pas de possibilité de l'organiser en été quand normalement se dispute la Coupe du Monde, où il faut climatiser des stades, où il faut aller loger les spectateurs dans d'autres pays. Il y avait tellement peu de raisons, à part l'argent, d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar, forcément, ça a cristallisé dans une espèce de ridicule du football dans lequel il se met. Mais comme aujourd'hui, il n'y a pas que le football qui se met dans ces situations ridicules, ça vient d'être dit, le CIO aussi, donc, va chercher l'argent là où il se trouve et se vend au plus offrant. Donc, on peut en effet avoir peur que ça détourne un petit peu, même si, bon, le football en a vu d'autres, mais que ça détourne un certain nombre de personnes du sport en général et du football en particulier.
Oui, parce que David faisait allusion à ces Jeux d'hiver donc asiatiques qui sont attribués à l'Arabie Saoudite, on sait que actuellement...
C'est une grande logique. Franchement, les Jeux Olympiques d'hiver à l'Arabie Saoudite, non mais je plaisante, c'est comme le Qatar. Enfin, ça paraît presque une blague, surtout cette attribution arrivant quelques semaines avant le démarrage de la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'ils ont choisi un très bon timing pour que ce ne soit pas relevé.
Et on sait que l'Arabie Saoudite aimerait ou rêverait, en tout cas Infantino le sous-entend suffisamment, organiser une Coupe du Monde un jour.
Mais oui, de toute façon, ça va à celui qui donne le plus d'argent, puisqu'il faut dire aussi c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont aujourd'hui des difficultés à organiser des grandes compétitions.
Surtout qu'il y aura de plus en plus d'équipes. Hein,
que ce soit des Coupes du Monde de football, des Euros ou des Jeux Olympiques, la France va bien payer dans peu de temps pour savoir que ce n'est pas évident à organiser, que ça coûte beaucoup d'argent. Donc évidemment, ces pays-là donc, où on respecte très peu la démocratie, mais où on a beaucoup d'argent, finalement, les institutions du sport vont là où il y a l'argent.
La FIFA a fait une grosse erreur. Ils étaient tous contents en 2010. Je me rappelle, on avait commenté les images. Voilà, c'est le Qatar. Tout le monde levait, tout le monde était content.
Avec des stades réfrigérés en plein été.
Mais c'est ce qu'ils avaient déjà annoncé à l'époque. Mais à l'époque, on ne s'intéressait personne. Il y avait aussi des personnalités politiques françaises qui étaient montées au créneau. Des sportifs français étaient montés au créneau pour le Qatar.
Mais pas que donc aujourd'hui, parce que c'était pas un
bien
vote.
Sûr. Donc maintenant, tout le monde est outré. Oh, on ne comprend pas. Oui, mais bon,
c'est ça.
Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Et d'un coup, ils sont plus contents. Ils se disent, ah non, finalement, c'est pas bien. Ah ouais, c'est pas bien, mais vous étiez tous d'accord à l'époque.
Nous qui travaillons avec le football régulièrement, on savait que cette échéance qatarienne, c'est ça qui surprend un peu même. C'est dans la chronologie.
Et cette
ça
façon
fait très
aujourd'hui
longtemps.
De culpabiliser donc,
les footballeurs.
Les fans, les footballeurs eux-mêmes. Les fans de football qui ont quand même envie de voir cette Coupe du Monde, c'est pas eux qui l'ont attribué au Qatar. Ils vont devoir se justifier à chaque fois qu'ils regardent un match. C'est assez détestable.
Je terminerai par un proverbe sénégalais, puisque c'est un Sénégalais qui l'a laissé sur notre page, Cheikh Tidjane Gueye, sur notre page Facebook, qui nous dit « On ne peut pas détester une poule et aimer ses poussins ».
Alors je vous laisse philosopher là-dessus. Vous avez une semaine jusqu'à ce que vous reveniez.
Je vous demain, la semaine prochaine.
Ou jusqu'à demain, si il y a certaines victoires dans l'air, messieurs.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Radio Foot International aujourd'hui. On se retrouve donc, chers auditeurs, tout à l'heure. Et en attendant, on encourage Marseille, n'est-ce pas, Marc ?
Ils en ont besoin.
Bien sûr. À demain.
À tout à l'heure. 7000